Je suis piégé, que de bonnes intentions rédigées. Mais sur leur tambour, y a marqué blanc égale sujet, noir égale objet. Braque, arnaqué, bloqué, plus par terre. Choqué, utilisé à R. Moi, j'y a plus qu'à pousser, gratter pour remonter dans ma propre estime. Où c'est que t'as vu que j'allais que compter sur leur temps de crime? La marge de manœuvre est réquéqué. Mon œuf est rimé, d'autres est féfé. J'deal avec la réalité, pas avec les utopies. Quand l'horizontalité sera réhabilitée, j'pourrais ignorer leur catégorie. C'est qu'une étape, mais s'ils sont arrêtés, c'est pour ça qu'on se tape sans pétition avec le reste de l'humanité. C'est qu'une étape, mais s'ils sont arrêtés, c'est pour ça qu'on se tape sans pétition avec le reste de l'humanité. C'est qu'une étape, mais s'ils sont arrêtés, c'est pour ça qu'on se tape sans pétition avec le reste de l'humanité. C'est qu'une étape, mais s'ils sont arrêtés, c'est pour ça qu'on se tape sans pétition avec le reste de l'humanité. Les colonisations en plusieurs étapes, y'a des millions, des milliards qui nous échappent. J'appartiens par les colons qui occupent encore militairement, mentalement. Je cherche des supports sur lesquels m'appuyer, nos histoires remixées dans leur cahier, tombées dans le panneau scolaire, dans le système salaire, séparés par des univers et son genre ils nous tolèrent, mais désintégrés, stoppage de progrès, bousillage de projet, les bergers promenés par un berger, l'identité sciée sans cohérence, pour ce qui est des reconnaissances, des réparations pour leurs crimes commis, à répétition, déni sur déni, de Nouméa à Maroni, soulèvement, recherche d'autonomie, gouvernement qui n'envisage pas ainsi, sabotage, inertie, pillage, profit. C'est qu'une étape, mais s'ils sont arrêtés, c'est pour ça qu'on se tape sans pétition avec le reste de l'humanité. C'est qu'une étape, mais s'ils sont arrêtés, c'est pour ça qu'on se tape sans pétition avec le reste de l'humanité. C'est qu'une étape, mais s'ils sont arrêtés, c'est pour ça qu'on se tape sans pétition avec le reste de l'humanité. C'est qu'une étape, mais s'ils sont arrêtés, c'est pour ça qu'on se tape sans pétition avec le reste de l'humanité. La migration est une étape imposée, histoire de conditions de vie améliorées. La daronne a fait taf, a fait gaffe aux économies. Dans la pierre, les amis, à remercier papi, mamie, mon terrain transmis. Génération n'est pas la bourgolerie, délégation, pas d'aumônerie. Construire, soigner, bosser, nettoyer le pays que l'on tue en large, en travers. Les objectifs sont clairs, mais nous l'option la grande ici, c'est pas le même fond de cloche, pas les mêmes options qu'on coche. Check 1, 2, 1, 2, check, check 1, 3, 1, 2. On l'a vu, on va plus fantasmer l'ailleurs, on en veut plus, c'est droit, tout ça t'as eu. Le meilleur du secteur, y'a intérêt, ouais, avec tes craintes et ta pitié, ta culpabilité, tu peux l'enterrer. C'est qu'une étape, mais s'ils sont arrêtés, c'est pour ça qu'on se tape sans pétition avec le reste de l'humanité. C'est qu'une étape, mais s'ils sont arrêtés, c'est pour ça qu'on se tape sans pétition avec le reste de l'humanité. C'est qu'une étape, mais s'ils sont arrêtés, c'est pour ça qu'on se tape sans pétition avec le reste de l'humanité. C'est qu'une étape, mais s'ils sont arrêtés, c'est pour ça qu'on se tape sans pétition avec le reste de l'humanité.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa quatrième émission de 2020. On est trop chaud. On attend Godzilla et les invasions de sauterelles pour retourner se confiner, parce que finalement on n'était pas trop mal nous confiner. Et ce soir, alors il y a deux semaines, on était complètement dans l'actu en vous parlant du mariage. Et là, on va être un petit peu, bon, voilà, on va aborder un petit sujet qui prête pas à conséquence, c'est l'universel. Alors, ça prête pas du tout à conséquence, hein, aujourd'hui qu'une minorité séparatiste de blancs riches revendique l'universalisme face à plein de gens. Évidemment, c'est chaud, quoi. Et donc, voilà, tous les Macron et autres qui voulaient détruire notre belle France. Au profit d'on ne sait trop qui d'ailleurs,
le savent-ils eux-mêmes? Enfin bon, peu importe. Sans doute pour eux-mêmes. Voilà, nous rabattent les oreilles avec l'universel républicain, dont on se demande lequel il est. C'est-à-dire, est-ce que c'est celui des massacres de Sétif? Est-ce que c'est celui des... la colonisation de Madagascar, je sais pas. Enfin bon, bref, peu importe. Donc notre bel universalisme pose question, parce que évidemment, malgré tout, c'est compliqué de renoncer à l'universel, au sens d'un universel qui serait pas, comme dit Hegel, abstrait, c'est-à-dire qui serait pas l'universalisation d'une position particulière. Genre, moi, homme blanc, je suis l'universel. Ça, c'est un universalisme abstrait. Et comment est-ce qu'on pourrait avoir un véritable universalisme, c'est-à-dire quelque chose qui n'exclut personne et n'inclut personne de force, peut-être. Ce qui est très... Parce qu'on a un peu le choix, soit on exclut, soit on inclut de force. Genre, mais si, vous êtes avec nous. Et donc, voilà, bon, alors je pense qu'on va peut-être aborder ce genre de sujet. Avec un magazine que vous connaissez sans doute, dans un numéro que vous connaissez sans doute, parce qu'on n'est pas si à la pointe de l'actu que ça, Réfraction, donc pour son numéro 43, Recherche et expression anarchiste, avec un numéro qui s'intitule « Au risque de l'universel ». Et donc, ça, en voyant le sommaire, on a l'impression que y a des débats, c'est pas des positions arrêtées dans ce numéro, et c'est Jean-Mathias qui peut nous présenter ça. Donc...
Ouais, alors
moi je vais faire la mouche du coche, hein, je vais t'emmerder. C'est clair. là je suis en position juste avec, je suis en train de préparer mes petits scopes, tu vois.
Mais tout le monde adore, adore ça.
Ah oui, maintenant c'est trop bien.
Voilà. Donc oui, numéro 43 de l'excellente revue Réfraction. Alors ça c'est le numéro de cet automne, de l'automne dernier. Donc on n'est pas on se rapproche quand même de l'actualité là petit à petit là. J'ai à l'oreillette, on nous a dit aussi que le prochain numéro là le numéro 44 était consacré au catastrophisme dont on a déjà abondamment parlé ici dans l'émission, donc peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de Réfraction dans pas longtemps, on verra. En tout cas, donc ce numéro là, donc de l'automne 2019 là, est consacré effectivement au débat qui traverse le mouvement anarchiste et puis les intellos libertaires, on va dire ça comme ça, hein, autour de cette question de l'universel, c'est-à-dire que alors l'universel, bah c'est ce qui est censé être commun à tous, hein, c'est ce qui est censé nous rassembler, c'est ce qui est censé nous rapprocher, je dirais, et évidemment dans le champ politique, ça veut dire que c'est aussi comme ça, ça définit un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de valeurs, un certain nombre de revendications aussi qui ont longtemps ont été plutôt celles du mouvement anarchiste, puisqu'il s'agissait effectivement de revendiquer la liberté, l'égalité pour tous les hommes de la même manière. Donc il y a une visée en tout cas universelle dans les revendications anarchistes. Dans l'histoire effectivement des idées anarchistes et l'histoire
pour tous les hommes, tu veux dire les êtres humains?
Oui, pour tous les êtres humains. Oui.
Je vais te chercher. Hein. Oui. Enfin, je vais essayer parce que je trouve que c'est un sujet vraiment glissant, mais bon.
Et en tout cas, historiquement, c'est un concept, le concept universel, une catégorie qui a pris une grande importance, notamment à partir de la Révolution française, tu l'as dit, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, parce qu'elle définit effectivement un champ de revendication politique, notamment au départ d'ailleurs des individus contre l'État, c'est quand même ça le projet de la première Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Donc en ce sens-là, les revendications qui sont souvent portées par les anarchistes, elles ont effectivement une portée, une visée historiquement liée à cette revendication à cet objectif en tout cas de revendication universelle, universalisable, universalisante. Ensuite, donc après, dans l'histoire du mouvement ouvrier, c'est aussi, alors je dirais que les premiers débats, les premiers remous autour de ça, c'est assez rapide, hein, c'est avec l'apparition du mouvement ouvrier et avec la notion avec l'anarchisme de classe, je dirais.
Que là-dessus il mentionne par exemple dans le numéro, parce que tu sais là, sur la Révolution française et sur la revendication des droits, moi je trouve qu'un des épisodes les plus intéressants c'est quand même ce qui se passe en Haïti au même moment.
Ouais.
C'est-à-dire que justement quand t'as certains députés qui sont essentiellement français mais aussi européens, c'est un peu plus compliqué que ça, qui revendiquent justement, qui vont poser cette déclaration. Quasiment au même moment, t'as une révolution qui éclate en Haïti sur le motif de nous aussi ça nous concerne.
Bien sûr.
C'est-à-dire c'est une réappropriation d'un universel et justement en face ça bloque parce que tout d'un coup on dit ah non mais en fait notre universel c'est pas vous. Parce que vous êtes des esclaves et vous êtes. Alors, t'en as d'autres qui vont dire ah, mais si, l'universel, c'est eux aussi. Oui. Genre Robespierre, qui va dire.
La révolution va abolir l'esclavage.
Oui, que périsse un principe. Comment dire que périsse la République ou que périsse la révolution plutôt qu'un principe. Justement, la liberté égale. Mais tu vois, c'est. Enfin, bon.
Le débat, en tout cas, effectivement, il devient brûlant avec la Révolution française, puisqu'il y a du point de vue des révolutionnaires, l'affirmation de principe, effectivement, des pratiques et des mobilisations qui sont pas forcément prévues par ceux qui revendiquent l'universel au départ à Paris ou à Versailles au jeu de paume. Mais effectivement, ça déclenche. Mais cela dit, ça se déclenche pas dans les colonies anglaises. Donc ça c'est clair.
Oui, ça c'est clair. Mais c'est aussi parce qu'il y a des trucs de circulation politique qui l'autorisent. Mais c'est intéressant parce que ce qui me semble intéressant, c'est de montrer que, en fait, peut-être dès son origine historique, la revendication de l'universalité ne peut pas être monopolisée.
Bien sûr.
Et qu'elle est toujours objet de contestation, de débat, et que de ce point de vue-là, tu peux être à peu près sûr, à mon sens, que dès que t'en as qui vont dire c'est nous l'universel, ils sont en train de raconter des bobards.
Bien sûr. Non, mais là, du coup, c'est ce que j'étais en train simplement de rappeler, c'était en fait le lien qu'il peut y avoir entre l'intérêt, je dirais, pour une certaine visée universaliste dans le mouvement anarchiste et puis un peu l'histoire du mouvement. Donc, effectivement, bon, t'as ce premier temps, la Révolution française, et après, dès l'apparition du mouvement ouvrier et puis les questions qui sont posées par le mouvement ouvrier dans le cadre d'une analyse de classe contre classe, y a déjà des questions qui posent sur cette question d'universalisme. Les marxistes refusent l'universalisme abstrait des droits de l'homme parce que justement c'est un universalisme bourgeois
formel qui ne garantit pas des droits réels.
Voilà, du point de vue du syndicalisme révolutionnaire et de l'anarcho-syndicalisme, on a aussi des discours et puis des pratiques qui vont dans le sens d'une autonomie ouvrière. C'est-à-dire que c'est ceux qui portent l'universel, c'est la classe ouvrière en tant que telle. C'est pas l'universalisme, c'est pas n'importe qui. Et ceux qui sont porteurs d'un universel réel, je dirais, et pas d'un universel
Ça, c'est du point de vue des anarcho-syndicalistes.
Oui, historiquement, des anarchistes ouvriéristes, je dirais. Il y a cette tradition-là.
Et là, tu vois, c'est encore intéressant, parce que tu pourrais te demander si, de quelle classe ouvrière s'agit-il.
Bien sûr.
Parce qu'il faut la reparticulariser.
Alors, ça, pour le coup,
parce que ça fait penser à des textes d'Orwell qui dit un des gros problèmes du parti travailliste, c'est qu'ils oublient que pour avoir le niveau de vie de l'ouvrier anglais actuel, il faut les colonies.
Bien sûr. Mais là, il y a des choses là-dessus, y compris même, là il y a un article de Daniel Colson là-dessus notamment, sur les différentes conceptions de la classe qui peuvent être justement s'opposer, y compris au sein du mouvement ouvrier, sur ces questions-là. Et au fond, je dirais, les trois coins qui sont enfoncés dans la revendication universaliste telle qu'elle apparaît au moment de la Révolution française, c'est la question de la classe, d'abord, des classes sociales, la classe ouvrière en l'occurrence, et puis il y a la question de la race, évidemment, tu l'as mentionné, et la question du genre, bien évidemment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des oppressions spécifiques qui portent sur la classe ouvrière, qui est la classe exploitée, sur une race dans le cas de l'esclavagisme, puis du colonialisme, sur un genre dans le cas des mouvements et des revendications féministes, évidemment, la question de l'universel devient problématique, puisqu'il s'agit de savoir qui est détenteur de ça, et comment surtout, comment ça peut se décliner. Est-ce que ça peut se décliner du point de vue d'une émancipation spécifique qui sera celle de telle classe, de tel genre ou de telle race? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un intérêt politique de s'appuyer sur une visée universaliste, quelque chose qui serait en principe acceptable par tous, qui serait en principe assumable par tous? Est-ce que ça a tout simplement un sens? Est-ce que ça a un intérêt? Ou bien, et ça c'est la version évidemment que tu suggères un peu depuis le départ, ou bien est-ce que tout simplement c'est pas toujours une espèce de camouflage pour la pensée dominante, de se réclamer finalement d'une forme d'universel pour laisser justement dans l'oppression et dans l'exploitation telle classe, telle race ou telle...
Ce que je suggérais aussi, c'est que très très souvent justement les classes, les races et les genres dominés peuvent se saisir de l'universel pour contester la domination d'un universel prétendu.
C'est pour ça que c'est compliqué.
Et l'universel prétendu qui va toujours dire non, c'est nous l'universel. Ce que fait Macron actuellement. Macron actuellement va dire c'est moi la République, etc.
Alors, le contexte que tu donnes là, moi je trouve que c'est effectivement intéressant. Qu'est-ce qu'on a? C'est pour ça qu'aussi j'ai
ça. C'est pour ça que j'étais à Haïti. Parce que Haïti, ils se sont aussi revendiqués de l'universel. Bien sûr. Quand t'entends Assa Traoré à la manif qui dit nous sommes tous Musulmans, juifs, chrétiens, nous sommes tous toutes les religions. Elle oublie les athées, je crois. Nous sommes, mais peu importe. Mais nous sommes tous la France. Pour le coup, c'est une revendication. Il y a le tous. Et c'est une revendication qui fait marrer par rapport à ce que peuvent dire les imbéciles du gouvernement, quoi.
Après là, tu fais sans doute référence là à ce que disait Macron récemment en réaction justement au mouvement contre les violences policières, en particulier lorsque ces violences policières s'exercent sur des racisés. Donc la déclaration de Macron consistait à dire, c'est qu'en fait les gens qui précisément allaient mettre le doigt sur les contradictions de l'universalisme républicain, puisque la République française en particulier historiquement elle est censée s'inscrire dans une perspective universelle, elle ne connaît que des citoyens, peu importe leur couleur de peau, leur confession religieuse, leur appartenance politique, etc. Puisqu'elle traite tout le monde de la même manière, en tout cas sur le papier. Alors il se trouve qu'effectivement, les racisés ont plus de mal à se loger, ils ont plus de mal à aller rentrer en boîte, ils ont plus de mal à trouver du boulot et à faire des emprunts bancaires. Et puis ils sont plus tuables que les autres lorsqu'ils croisent des représentants de cet universalisme républicain. Et donc Macron, déplaçant le problème en disant le problème, ce sont tous ces gens qui justement critiquent l'universel et cassent la République en deux, n'est-ce pas ? Cassent la République en deux. Alors on se demande d'ailleurs en deux quoi ? Parce que on voit pas qui se retrouve, quels sont les camps qu'il a en tête exactement. Oui. Donc ce qui est sûr, et que tu l'as dit effectivement, c'est que c'est une affaire qui est compliquée, ce truc-là, parce que historiquement ceux qui contestent l'universalisme au départ, ce sont les partisans de l'ancien régime, sont les ennemis de la révolution, ceux qui contestent l'universalisme en disant mais en fait les droits de l'homme, ça on sait pas de quoi il s'agit, nous ne connaissons partisans de l'ancien régime que des Français, des Anglais, et en fait les droits ce sont ceux que les gouvernements et les monarques, tu cites
Mestre,
Joseph de Mestre, Burke,
un auteur anglais, mais je pense que c'est révolutionnaire.
Voilà, mais ça veut dire que c'est important de l'avoir en tête, c'est-à-dire que historiquement la critique de l'universalisme elle vient des monarchistes et des monarchistes hostiles à la Révolution française, qui disent qu'en fait il y a l'universalisme est forcément quelque chose d'abstrait qui ne correspond à rien, c'est une forme d'idéalisme utopique dangereux, parce que au fond il camoufle une espèce de volonté de violence à l'égard des traditions.
Temps, c'est une critique qui est déplacée au niveau de la classe. Tu retrouves chez Marx,
bien sûr, l'abstrait
de l'universel, mais que tu peux aussi trouver, comme je disais, chez ce philosophe allemand qui a des tas de défauts, Hegel, ce qu'il appelle l'universalisme abstrait.
Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important. C'est une affaire qui est compliquée, parce que encore une fois, dans cette équation, historiquement, les positions peuvent
changer,
il y a une espèce de tourniquet là au cours du temps qui est périlleux quand même, parce qu'il faut les arguments des uns et des autres sont pas forcément toujours explicites, sont pas forcément toujours non plus présents à l'esprit de ceux qui les manipulent, donc c'est important d'avoir ça en tête. Donc on a ce premier épisode, et ensuite on a effectivement, comme tu dis, la critique notamment celle de Marx au nom du mouvement ouvrier, mais d'une partie du mouvement ouvrier, parce que les anarches ont souvent moins embrayé là-dessus. Alors, je reviendrai là-dessus, parce qu'après, il y a l'article de Colson, notamment là-dessus, qui précise des choses un peu intéressantes. Et ensuite, première critique, effectivement, où on dit que, en fait, la classe ouvrière, c'est elle l'universel. C'est pas la bourgeoisie, c'est la bourgeoisie, elle est hors universel. Elle s'accapare l'universel, déjà. Elle utilise ça, notamment pour défendre la propriété privée qui permet d'exploiter la classe ouvrière. Donc, il faut bazarder l'universalisme, et il faut défendre les intérêts de la classe ouvrière, parce que ce sont les seuls qui sont réellement universels. Voilà, on est déjà dans l'universel réel, par rapport à une espèce d'universalisme abstrait. Voilà, même, et puis alors évidemment avec la décolonisation, puis ensuite le mouvement décolonial, postcolonial et décolonial, l'histoire de l'esclavagisme, la question se pose également sur la question de la race, puisqu'effectivement les mêmes, là pour le coup historiquement c'est clair, ceux qui ont porté, ou en tout cas la Troisième République qui se veut universelle en France, c'est parfaitement accommodé, non pas de l'esclavagisme, mais de la colonisation. Oui.
Et, mais ce qui est remarquable, c'est qu'elle a aussi utilisé le thème de l'universalisme pour justifier,
la colonisation. Exactement. Alors, et là, on a quelque chose qui est. Et donc, là, c'est encore un nouveau tour, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est au nom de l'universalisme qu'on justifie la hiérarchie entre les races.
Oui.
Voilà. Donc, là, on a clairement un universalisme raciste. Raciste, puisqu'effectivement, il s'agit de justifier l'expansion de la civilisation universelle
blanche capitaliste,
en l'imposant à ceux qui ne l'ont pas, bien évidemment. Alors, nouveau tour de vis après, parce que du point de vue postcolonial, décolonial et postcolonial, là, pour le coup, il y a maintenant des gens qui se sont battus notamment contre la colonisation, qui ont milité contre la colonisation, notamment dans les années 50 ou 60, et qui sont accusés aujourd'hui par d'autres biais de défendre une forme d'universalisme qui serait là encore oppressif, voire raciste. C'est le cas notamment d'un certain nombre de féministes blanches, pour le coup, qui se voient accusées aujourd'hui, alors qu'elles ont été engagées corps et âme dans la décolonisation, de défendre en fait un féminisme, pour le coup, un universalisme dans le cas du féminisme, qui serait oppressif à propos de racisé et donc là on a encore un tourniquet, je dirais, c'est-à-dire que cette revendication universaliste elle passe son temps, effectivement. C'est soit la patate chaude, soit le l'étendard
qu'on y reviendra, mais moi j'ai souvent l'impression qu'il y a cette espèce de bascule entre exclusion de l'universel. Tu ne fais pas partie de l'universel, tu es encore dans le particulier, donc j'ai le droit de tout te faire, et l'inclusion forcée, mais si tu es comme nous. Et si t'es pas comme nous, ben en fait, tour de manivelle, tu n'es pas encore dans l'universel. Et c'est là-dessus que ça va souvent. Tu vas avoir cette espèce de cliquet, quoi. Tu vois, ça joue là-dessus. Et je pense qu'il faudrait prendre en compte le fait que justement, l'exclusion comme l'inclusion forcée, c'est juste, ça marche pas si tu veux vivre avec les autres.
Bien sûr. Sauf que d'accord avec ça, sachant que dans le champ, je dirais, des mobilisations politiques. T'as aussi des temps, des moments et des logiques de mobilisation qui font que justement beaucoup et souvent, et ça peut d'ailleurs être justifié, t'as des temps d'exclusion. Oui. qui sont constitutifs d'une mobilisation politique, et du coup, de ce point de vue-là, effectivement, le repoussoir de l'universalisme peut aussi être utilisé à ce moment-là.
Ici, je parlais d'un point de vue dominant, c'est-à-dire si t'es dans les dominants et que tu utilises l'universalisme, tu vas, ta remarque permet de préciser ça éventuellement, tu vas effectivement pouvoir jouer de l'exclusion et de l'inclusion forcée. Si tu es du côté des dominés, qui est-ce que tu peux pas exclure vraiment?
Non, tu peux pas exclure vraiment.
Bien. De fait,
tu peux pas exclure. Alors oui, après tu vois,
t'es pas en position d'exclure.
Typiquement, un groupe non mixte féministe des années 70 exclut les hommes de la discussion sans qu'on puisse assimiler ça à un particularisme imposé de manière.
Ça marche pas. Donc, bien sûr. Là-dessus, effectivement, après, tu peux avoir des logiques différentes, mais pour le coup. Et justement, très très souvent, tu as une confusion dans les discours publics de ça. C'est-à-dire qu'on va mettre les dominants et les dominés exactement au même plan et dire « Ah, mais regardez, ils font la même chose !» Comme s'il y avait un parallélisme.
Alors, après, donc du coup, tout ça pour rappeler effectivement qu'en tout cas, le champ est compliqué, les fronts se renversent assez régulièrement. Et du coup, c'est parfois assez difficile d'y voir un peu clair. Ou sombre, je sais pas comment faut dire, mais en tout cas, alors un des intérêts, moi je trouve, de ce numéro là de réfraction, c'est que ça permet de prendre la mesure de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une théorie anarchiste de l'universel qui se dégage de ça. Il y a plusieurs interventions là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine de textes, 11 textes qui sont tous de vraiment de bonne qualité là, vraiment je le conseille. C'est un plaisir de lire ce numéro là chacun, voilà, il y a des points de vue qui sont clairement en désaccord, hein. Que ce soit par exemple le premier papier là de Monique Rouillet-Boireau, qui elle défend une conception universaliste assez classique, je dirais, en montrant ce qui selon elle représente un risque de division, d'opposition et d'échec en fait des revendications politiques qui bazarderaient la visée universaliste ou en tout cas un objectif universaliste. L'article suivant, c'est celui d'un article de Thomas Ibanez qui lui est radicalement anti-universaliste, hein, plutôt dans la veine d'un Foucault et des critiques de l'universalisme qui ont pu se développer à partir des années 70. L'article suivant est celui de Daniel Colson qui lui reprend en fait les différentes conceptions de la classe ouvrière au moment des débats au sein de l'international entre marxistes et anarchistes et qui essaie de montrer comment, d'après lui en tout cas, on trouve dans les conceptions de la classe ouvrière chez Proudhon une forme d'universalisme qui finalement s'appuie sur la diversité, une forme de diversalisme, comme il dit, en jouant un petit peu sous les mots, qui serait en fait une sorte de mise au centre de la singularité individuelle avant l'homogénéité d'une classe qui serait porteuse d'universel, comme on le trouve par exemple dans les modèles marxistes. Je reviendrai là-dessus parce que c'est assez abstrait comme manière de faire.
Ouais, et puis prendre Proudhon comme point de départ pour ça, c'est un peu louche.
Ah, c'est souvent ce qu'il fait, hein, du point de vue là, il est dans la matrice, dans l'anarchisme historique. Hein,
d'accord, parce que Proudhon, bon. Hein. Ouais.
Ah ben c'est sûr que quand tu vas l'interroger du point de vue du genre ou de la race, là tu as moins de ressources.
C'est,
hein,
l'horreur.
Il y a moins de ressources. Il y a un article très intéressant aussi sur la question d'un supposé universalisme juif qui pose au fond la question des rapports historiques entre l'histoire de l'universalisme et celle et l'apparition du monothéisme. Simplement. D'accord. Et qui essaye de montrer comment le monothéisme est finalement une première, donc le judaïsme en l'occurrence, comment le judaïsme est finalement une première mouture, hein, d'universalisme avec à la fois une portée qui va être émancipatrice pour certains individus, pour certaines catégories d'individus dans le cadre de l'apparition et du développement du monothéisme, mais aussi avec une dimension autoritaire dès le départ, qui va être celle d'une vérité unique qui s'impose et qui a vocation à s'imposer, même si dans le cadre du judaïsme, c'est une affaire qui est compliquée. En tout cas, en germe, on a là quelque chose comme une espèce d'universalisme, alors que le judaïsme est la plupart du temps présenté justement au contraire comme une religion du particularisme, du peuple.
Shlomo Sand dans un de ses bouquins, c'est que jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, globalement, le judaïsme est prosélyte. C'est-à-dire qu'ils essaient d'avoir des convertis. Ouais. Et ensuite, il va y avoir une espèce de virage où ils arrêtent d'essayer d'avoir des convertis. Ouais. Mais globalement, son idée, c'est que pendant un certain temps, c'est une religion justement à vocation universelle.
Alors là tous les articles, alors c'est peut-être à la fois un des intérêts, peut-être aussi une des limites là de certains articles, c'est qu'on est vraiment sur la philosophie assez abstraite, je dirais, avec pas mal, y compris d'argumentaires de type un peu métaphysique. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant, au contraire, très intéressant. Mais là en l'occurrence, c'est une approche à la fois historique et à la fois théorique, hein, je dirais, voilà, du monothéisme juif. Et il y a alors ensuite deux articles là très très bons, un entretien qui en fait pose la question des universaux d'un point de vue anarchiste du côté de l'anthropologie.
D'accord.
Et ça, c'est très intéressant. Donc on a un premier article de Charles MacDonald, qui est en fait un anthropologue libertaire, hein, américain. Tout ça sont des auteurs qui sont, alors c'est aussi, il y a différentes générations là, hein, d'auteurs, autant Ibanez, Colson, MacDonald sont des auteurs qui sont déjà pas âgés, mais qui sont déjà bien établis depuis les années 70 sur ces questions-là. Et puis on a des auteurs plus récents. Je termine peut-être juste la table des matières pour avoir une vue d'ensemble. Donc il y a ce texte de MacDonald sur les universaux de l'anthropologie. Ensuite, il y a un entretien avec quelqu'un qu'on a déjà commenté ici, qui est James C. Scott, qui est un anthropologue également, je dirais, de atropisme anarchiste, hein, on va dire, sur la question des résistances et infrapolitiques à à l'État et la manière dont justement se pose la question universelle de ce côté-là. Voyez un article d'Erwan Sommerer, qui est maître de conférence à Angers, qui revient sur ses conceptions de Scott. Un entretien très intéressant aussi avec la féministe historique, hein, je dirais Françoise Pic, qui est une des fondatrices du MLF, et qui revient sur cette question-là et sur les débats donc autour de l'universalisme dans le mouvement féministe. Un petit texte aussi très 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 éclairant, je trouve, de Raffaele Gandini-Minetto, alors qui est une éditrice indépendante et qui se réclame plutôt d'analyses de Delphi, notamment sur les classifications, et qui est plus elle sur une approche constructiviste, hein, donc une critique de l'universalisme au nom des acquis de la science sociale, la construction des catégories. Un article d'Eduardo Colombo aussi qui est plus ancien, qui est reprise d'un numéro de 94, d'une revue de 94 sur la question, mais qui est très intéressant. Et aussi pour terminer, peut-être, bon, c'est pas directement dans le dossier, mais ça participe en fait de cette réflexion là un article sur les rapports entre Gustav Landauer, qui est en fait un anarchiste allemand de la fin du 19e, du début du 20e siècle, et les rapports entre Landauer et Herder, qui est un philosophe allemand, critique de l'universalisme des Lumières, au nom d'une espèce d'universalisme qui serait inscrit dans les nations, dans l'esprit des peuples, on a quelque chose de cet ordre-là, et avec une idée derrière d'une espèce d'universalisme communautaire, hein, qui serait partagé, selon l'auteur, entre Landauer et Herder. Donc vous voyez que c'est extrêmement vaste, en fait, comme panorama, là. Très intéressant, des approches à la fois, voilà, historiques, anthropologiques, différents champs. La question de l'universalisme et du racisme est pas centrale, ça on peut le regretter. Ça date de Stoughton, hein. Alors peut-être que les prochains numéros seront un peu plus fournis de ce côté-là, mais c'est évoqué bien évidemment, mais c'est pas central. On a l'article de Colson sur la question des rapports entre l'universel et la classe, l'analyse classiste, je dirais. Il y a des choses sur le féminisme, un petit peu moins donc sur les questions de genre, un petit peu moins sur la question de la race. Mais ça reste, moi je trouve, voilà,
un panorama
très 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 complet,
intéressant.
Très intéressant, et voilà. Donc pour donner, on va peut-être faire une première coupure présenter.
Alors vous aviez entendu Missy Blodia et Dr Curie, étape, et ensuite qu'est-ce qu'elle dit la madame, choisi par José.
Ils appellent ça du rap de femme, du slam, c'est comme ils voudront. Moi je suis bien calé là, kiké, en goudronné au fond de mon chaudron. Au fond de mon chaudron. Au fond de mon chaudron. Ils ont détesté du roi, mais ils ont osé ma tête. Je crame et cache ma chatte sous mon bal. J'ai pas des barbes dans l'épaule. Mon corps se détériore, à l'intérieur c'est tout mort. Alors, à bout de force, je m'endors. Je mords à l'hameçon, comme dans le tourbillon des soupçons. Véridiques et sadiques, des causeurs de tort. Aux formes d'iridium natif, elles crichent dans le sol. Alors, je grogne dans ma cage à zigone. Personne ne me raisonne. J'ai mal à la gorge, à force de radoter, papoter avec ces autres imposteurs, aux faux airs d'apôtres sauveurs et d'orpilleurs de cœur, manipulateurs de cerveau. Je porte mon passeport de psycho dans la poche intérieure, mon blazer. J'suis blasé, blessé, lassé, agacé. J'suis pas une princesse, tout réveille dans son sommeil. Bordel, y'en a plus cassé. J'voudrais tout fracasser, faire de la fricassée. En paquet, étiqueter des codes barrés. De la marmelade d'enfoiré, de liège, la gasse. Mais d'une abriga qui fouette la rissa. Lisa Paris, t'es ma papa bandalise. Anarchiste qui côtoie le pavé. Fariété représente les maltraités. On a mal têté, ne tente pas de nous tâter, ça va nous énerver. C'est pour mes grands-mères, mes guimards, aïe, aïe, les sisters, tous mes immigrés, hashtag juia, mes pétés trop OP, allez là, mes trans qui me transcendent, des bouches comme personne sur le son, et mes goudous, grands garous, gourous, aou, miaou, mes hétéros rangés, dérangés. Mes sans religieux, courageux, peureux, et mes natures au four, feu trop ouf. C'est pas
tu pleuves, viens que je t'étouffe. Tout à l'heure, on a tenté de m'égorger pour ne pas que je parle. Voulez-vous que je meure, que je me barre? Miseria, mon armée de mots désarmés qui se noie dans la zermie. Zama, zama, on ne vit qu'une fois. Ah, quelle horreur de vouloir ça. Ils ont zappé que je suis le cirque, ça pas moi toute seule. Je représente ça, Gaza et pas que. Ces années, ma life qui traîne la patte dans le bar de Rosa et Frida. Repas les sapins quand je frise à l'agonie. Blabla, tu m'adores, petite blague. Je te zappe, mais pas what. Car j'ai la foi, la vie dans nos kawab. Je me prenne dans un petit coin dans votre crânienne. Je suis pas, n'a pas la taille de leur gros appétit. Et j'ai pitié de leur folie malsaine. Ils ne méritent pas que je saigne, mais que je monte sur scène pour les saigner. Puis les jeter à la scène de façon trop obscène. Ils cessaient de me goûter, croyaient qu'ils pour éviter l'indigestion. Des restes là, caillera entre tes dents. RDV chez Colgate pour les passer aux garchères. Toutes leurs pulsions en émulsion et leurs propres psychoses finiront par les buter dans l'asphyxie du petit feu de leur malaise. J'ose croire que je suis trop balèze. Je trempe mes lèvres dans un vélez pour me laisser me laisser divaguer sur des flots de lactose alcoolisés aux couleurs cacao. Torturer ma rime est en prose, entremêlée d'obsédés pour dénuder mes malheurs dans l'apothéose de leurs jeux inutiles et interdits.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicitaire, si publicitaire et si ni publicité. Jean-Mathias vous présente un numéro de réfraction consacré à la notion d'universel. Donc effectivement, c'est une notion qui est à la fois comment dire extrêmement abstraite, complètement ancrée dans la philosophie et complètement historique. Ce qui fait que, effectivement, chaque fois qu'on en parle, on dit de la merde. Et parce que, mais bon, puisqu'aujourd'hui, justement, c'est au centre de tout un tas de débats, et c'est une notion qui est souvent réclamée par des gens qui sont de fait pas du tout universalistes, et sont de fait racistes, et sont racistes au nom de l'universalisme. Donc, par exemple, c'est le contexte actuel. Donc là, avec ce numéro, on tombe un petit peu, tu l'as dit, il était publié quand ?
À l'automne 2019, là, cet automne, là, l'automne dernier. Donc, effectivement, on était avant les mobilisations en cours, là, contre le racisme policier, contre les violences policières, hein, qui effectivement a remis, en tout cas. Alors, ce qui est compliqué dans cette affaire-là, comme tu dis, c'est que c'est le terme d'universalisme en tant que tel, il faut voir toujours quel est le premier à le dégainer, en fait, dans cette affaire. Parce que c'est vrai que là, en l'occurrence, récemment, bah, c'est Macron qui l'a dégainé. Donc, c'est symptomatique de quelque chose. C'est qu'effectivement, c'est une catégorie, derrière laquelle il doit, lui, se sentir à l'abri, en quelque sorte, hein, de mobilisation, de revendication et de contradiction, bien réelle.
Bah, il se sent propriétaire de l'universel.
En tout cas, je sais pas s'il s'en sent propriétaire, parce qu'à mon avis, il s'en fout éperdument, mais oui. Par contre, il s'en protège. Il s'en protège par cette catégorie-là, quand lui, il la met sur le, dans les
lacs. Il n'y a pas que lui, après.
Pas que lui, bien entendu. Mais en fait, en même temps, il faut bien voir, c'est trop rapide de dire l'universalisme, pour l'instant, c'est l'étiquette à Macron, parce qu'il y a plein de gens qui se réclament de l'universalisme et qui sont, radicalement, farouchement anti-macronistes, libertaires, féministe, voilà, il y a aussi, il y a tout, faut pas non plus laisser forcément en trophée une catégorie que dont lui pense effectivement qu'il peut l'utiliser à son avantage, hein. C'est compliqué, cette affaire là alors peut-être pour rentrer un petit peu dans le contenu du numéro, alors c'est un petit peu difficile parce que ça aborde en fait cette question là de sous plein d'angles différents, ce qui fait un peu l'intérêt du numéro. Il y a le pôle, je dirais, anthropologie, là, universel anthropologique, qui est intéressant parce qu'il est, il prend la question de manière beaucoup plus empirique, c'est-à-dire que la question qui est posée par McDonald ou par James C. Scott, hein, surtout par McDonald, c'est la question de savoir si au fond il n'y a pas si cette question de l'universel, on peut l'observer en étudiant les sociétés ou les communautés humaines, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut y avoir d'universel observable, hein, dans l'étude des sociétés humaines, plutôt que des concepts, si tu veux, ou des normes, ou tu vois, ou des objectifs collectif très 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 abstrait ou qui prête justement du coup à polémique comme ça, est-ce qu'il y a moyen, c'est la question que pose McDonald's, mais aussi James Cisco d'une certaine manière, est-ce qu'il y a moyen d'observer des voilà. Alors c'est une question qui est aussi importante dans l'anthropologie, hein. Par exemple, voilà, sur des gens comme Lévi-Strauss, par exemple, au XXe siècle, ont soutenu, par exemple, l'interdit de l'inceste était une forme de structure sociale qui était universelle, qu'on retrouvait dans toutes les sociétés humaines. Donc là, on est sur une espèce d'universel qui serait empirique. Et alors, l'intérêt de McDonald's ou de James C. Scott, c'est qu'ils vont essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose comme des universels qui seraient empiriques dans les sociétés humaines et qui iraient dans le sens des aspirations libertaires ou anarchistes. C'est un peu ce que fait à sa manière aussi quelqu'un comme Chomsky, hein, lorsqu'il va chercher dans les structures du langage, de toute forme de langage d'une certaine manière, une espèce de tendance à la créativité et à la singularité, à subvertir des normes déjà établies, à subvertir des structures déjà établies. Et il établit un parallèle, même si évidemment il ne va pas justifier lui son anarchisme par la linguistique, mais c'est quelque chose qui est cohérent en tout cas, hein, d'après lui, entre un positionnement anarchiste dans le domaine politique, en tout cas une critique de toutes les formes d'autorité abusive ou injustifiée, injustifiable. C'est cohérent, ce type de positionnement politique est cohérent avec ce qu'on observe dans un trait de la nature humaine au fond, hein, qui serait. Alors ça revient pas à dire que l'anarchisme est là serait une tendance naturelle de l'esprit humain, ou en tout cas que ça serait la voie d'épanouissement de la nature humaine, mais il y a c'est cohérent, c'est pas contradictoire. Voilà, l'anarchisme n'est pas quelque chose qui serait contradictoire avec la nature humaine telle qu'on l'observe, hein, dans la diversité des organisations humaines, sociales, etc. Alors là, il y a par exemple des choses, ils vont chercher du côté évidemment des systèmes de parenté. Alors des systèmes de parenté, alors évidemment les systèmes de parenté peuvent être extrêmement divers selon les sociétés, mais le classement, un classement parental, c'est-à-dire une définition des liens de liens de parenté, oncle, mère, frère, tante, mari, etc., etc. Ainsi, une classification et une précision et une valorisation. Valorisation, on ne veut pas dire que c'est bien, mais en tout cas, ça veut dire qu'on les distingue. Ça veut dire que ce ne sont pas des liens neutres, ce ne sont pas des liens comme les autres. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Alors, quelque chose qui, pour le coup, à mon avis, est plus contestable d'un point de vue anard, c'est que quelqu'un comme Scott va jusqu'à dire à la conclusion là, de l'entretien qu'il a avec Sommerer que, d'après lui, il y a quelque chose du point de vue des valeurs et des normes familiales un peu fondamentales, dirons-nous, des valeurs de solidarité, d'égalité et des formes d'organisation sociale anti-hiérarchique qui iraient plutôt dans le sens des revendications anarchistes et qui seraient hétérogènes à d'autres tendances qui sont celles des tendances de pouvoir et d'hiérarchie qui arrivent effectivement notamment avec l'apparition des États au cours de l'histoire humaine, hein, et qui elles vont au contraire vont à rebours en fait, hein, de ces tendances là. Donc il va pas jusqu'à dire que voilà que la famille est une organisation naturelle et que le clan ou que tu vois des structures sociales un peu au périmètre un peu plus limité sont naturelles à l'homme alors que l'État ne le serait pas. C'est pas ça qu'il dit, mais il dit que c'est des choses qui existent en quelque sorte dans l'histoire, des formes d'organisation humaine, et que c'est probablement de ce côté-là qu'on peut aller chercher en tout cas des arguments de fait, et non plus simplement des arguments, tu vois, de concept ou de valeur, etc., des arguments purement factuels en faveur de la crédibilité, en tout cas, d'organisation sociale anti-autoritaire et para, voire anti-étatique. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez lui. C'est intéressant parce que si tu veux, je sais pas si alors ça date, on l'a déjà évoqué plusieurs fois ici, hein, c'est notamment des choses qu'on trouvait déjà d'une certaine manière chez Clastres ou des gens comme ça, hein, cette tradition anthropologique anarchiste là. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est un pôle important, si tu veux, dans le numéro de cette revue là, comme si effectivement c'était quelque chose qui se développait peut-être particulièrement en ce moment, en tout cas, si tu veux, dans les recherches théoriques anarchistes, on va dire, hein. Là on est sur le plan de la théorie, même de la recherche universitaire, hein, on est là-dessus. Mais je trouve que c'est quelque chose qui, alors c'est encore une fois, c'est pas nouveau, hein. On trouve ça chez Kropotkin notamment, voilà, quand il va aller chercher en fait des logiques d'entraide dans les animaux et dans les espèces humaines, hein. et la manière dont lui s'appuie là-dessus sur cette espèce d'analyse qui, de fait, en tout cas, une analyse empirique, si tu veux, des formes d'organisation sociale humaine pour aller justifier en tout cas des aspirations libertaires, critiques de l'État et puis des critiques de l'autorité en général. C'est qu'en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une tradition anarchiste qui se porte bien, hein, qui se porte bien et qui pour le coup est un petit peu en décalage par rapport aux polémiques qu'on évoquait là, parce que si tu veux, on est sur un terrain qui est celui de l'empirique ou de l'observation. Donc en fait, on est plutôt sur des constats de faits. C'est aussi quelque chose d'assez prudent du point de vue des conclusions, c'est-à-dire qu'il s'agit jamais de naturaliser l'anarchisme, de faire comme si l'anarchisme était finalement la tendance naturelle des sociétés humaines, parce que clairement ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, il s'agit de démontrer à minima que c'est une tendance possible. C'est une tendance qui est crédible, c'est une tendance qui est digne de valorisation et qui est pas une vue de l'esprit, si tu veux, voilà, de naïf, baba cool, tu vois, voilà. Donc on est
plus sur une réflexion sur la nature humaine et sur
plus sur quelque chose comme ça, effectivement, et sur
sur la nature humaine supposée, et comment est-ce qu'on pourrait l'observer,
ouais.
Et retrouver des manifestations pas identiques, mais qui découleraient d'un même principe, c'est-à-dire
un principe anti-autoritaire. Si tu veux,
tu trouves chez Graeber l'idée qu'il y a trois trucs universels dans l'espèce humaine, qui seraient ce qu'il appelle les échanges. Le communisme et la hiérarchie. Et simplement, lui, il pense que ces trois principes qui sont pas forcément cohérents, ils peuvent rentrer en contradiction les uns avec les autres, ce qui fait que tu vas observer différentes choses dans tout un tas de différentes sociétés humaines, ce qui fait que effectivement là la notion d'universel, en fait, elle devient très très abstraite en même temps, parce que tu l'as fait reculer d'un cran. C'est ce que dit Graeber quand il dit quand on cherche l'universel en gros, il faudrait chercher l'universel au niveau des problèmes que les sociétés se sont posés, la façon dont elles les ont dans les problèmes que les sociétés ont rencontrés, plutôt que dans les façons dont elles les ont résolus. Parce que globalement, son idée, c'est que les problèmes que rencontre l'humanité sont souvent les mêmes, simplement, chaque société peut trouver des moyens différents de les résoudre.
Tout à fait.
Ce qui fait que la question de l'universel, elle se pose plus au niveau des réponses apportées aux questions. Là on est sur un truc ultra abstrait, hein.
Oui,
on est,
là, en fait, on est plus, sauf que c'est aussi l'objectif est beaucoup plus concret que ça. C'est la question de savoir comment les hommes résistent à l'État et à l'autorité, en fait, dans les organisations, de différentes manières.
Est-ce que nous sommes fondés à résister?
Oui, il y a quelque chose clairement de cet ordre-là. Et il monte. Alors c'est ce qu'on avait dit. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail là parce qu'on en a déjà parlé ici. Mais c'est James C. Scott, c'est tout son affaire de résistance infra-politique. Parce que Sommerer a une formule que j'aime bien. Il dit chez Scott, finalement, on est une sorte d'anarchisme de la fuite. Hein, dès que les États effectivement se mettent en place, des structures centralisées autoritaires se mettent en place et viennent casser des formes d'organisation plus égalitaire, plus horizontale, etc. Il y a cette espèce d'anarchisme de la fuite qui va consister à esquiver les identités, les assignations, le contrôle fiscal, le service militaire, etc., etc., etc.
La langue de l'État.
Voilà, la langue de l'État, etc.
Et donc la reformation de nouveaux particularismes. Par exemple, dans son bouquin sur l'Asie du Sud-Est.
Ouais, tout à fait.
James, justement, parle de l'infinie diversité des marges de l'État. Ouais. Et il dit, voilà, vous avez affaire à tout un tas de populations qui ont fui l'État. Et qui sont souvent retrouvées prises un peu en étau entre les barbares et l'État. Mais là, tu vois, ce serait. On retombe sur une revendication particulariste qui défendrait la liberté, en fait.
Il y a quelque chose dans là, oui, mais sauf que c'est une revendication particulariste que tu trouves dans la plupart des sociétés humaines et qui est inscrite d'une certaine manière dans la nature humaine. Donc c'est un particularisme qui est largement répandu, universalisme, voilà.
On revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire là dans le débat sur l'universel, on a fait un pas en arrière en termes d'abstraction. C'est-à-dire que l'universel, c'est plus la solution,
c'est une tendance dans la nature humaine à résister à des formes sociales autoritaires. Voilà.
D'accord.
Mais
là, ce serait du pur Bakounine, c'est-à-dire que globalement, parmi les tendances humaines, observables, universellement, bah, il y a dire
bah, il y a l'état. Bah, exactement. D'accord. Donc si tu veux, c'est un universalisme libertaire tout à fait classique qui cherche effectivement là pour le coup voilà des indices de confirmation. Ce ne sont pas des preuves, mais des indices de confirmation ou au moins des cohérences, des convergences avec la manière dont s'organisent les sociétés humaines lorsque l'état apparaît. Donc on est plutôt voilà dans t'as ça et t'as aussi là, chez McDonald's on a aussi une tendance à lier ça
parce que ça veut dire que l'universel ne peut pas s'incarner dans une forme de pouvoir.
Non, mais par contre, dans du contre-pouvoir.
C'est-à-dire que dès que le pouvoir se réclame de l'universel, on sait que
absolument,
ça marche pas.
Absolument, absolument. Mais ça, c'est un universalisme, et qu'effectivement, qu'un universalisme de contre-pouvoir, tout à fait.
Parce que si t'es sur, sur l'idée que ce qui est universel, ça a tendance à contester le pouvoir, à partir du moment où le pouvoir.
Oui, mais cette tendance-là, elle est. Moi, je la trouve intéressante, parce qu'elle te prend pas, elle s'inscrit pas, elle accepte pas d'emblée, si tu veux, le champ polémique, tu vois, défini par, voilà, universalisme, particularisme depuis la Révolution française. C'est une autre manière de dire. Alors, du point de vue des papiers, alors, pour le coup, la position anti-universaliste, je dirais, qui s'entend, hein, qui est répandu, hein, dans l'anarchisme, et qui a ses raisons, hein, je dirais. C'est celle qui est défendue par Thomas Ibanez, qui défend ça. Bon, un papier qui est, avec lequel moi je suis pas complètement d'accord, mais il faut lui reconnaître la cohérence et le brio. Son affaire à lui, si tu veux, ça consiste à dire que finalement, dès qu'on rajoute une ambition universaliste à ce qu'on dit ou à ce qu'on défend, en fait, on cherche à prendre le pouvoir, finalement. Finalement, l'argument est là. C'est-à-dire que dès que tu dis que tu fais autre chose que défendre une valeur à laquelle tu tiens, voilà. Dès que tu dis autre chose, dès que tu dis qu'en fait cette valeur-là, tu la défends parce qu'elle est universelle, en fait, il y a quelque chose comme une tentative de coup d'État entre guillemets sur ton interlocuteur, sur ton opposant. C'est-à-dire que c'est une catégorie d'autorité au fond. Hein. C'est une catégorie d'autorité et c'est une tentative de prendre le pouvoir sur effectivement celui à qui auprès de qui tu vas revendiquer l'universel. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Très foucaldien dans la manière de faire, si tu veux, hein, dans on est dans du rapport de force toujours, et dans le jeu de rapport de force qu'est la politique, que sont les rapports politiques, la catégorie d'universel est toujours une arnaque pour chercher à prendre un pouvoir symbolique et une autorité symbolique sur celui à qui tu l'opposes. Voilà. Alors là, typique Macron, Macron pour le coup, ça marche très très bien.
Ouais, mais est-ce que ça marche avec Ouais, mais justement, là pour le coup. Ça n'a pas marché quand c'est celles et ceux qui sont opprimés qui revendiquent l'universel.
C'est la limite de ça. Hein. C'est la limite de ça. Parce que il faut pas perdre de vue, si tu veux, qu'effectivement un Macron peut revendiquer l'universel. Mais par exemple, tu prends on va aller au point Godwin vite pour gagner du temps. Mais si tu prends les mouvements comme le nazisme ou le fascisme italien, ils sont radicalement anti-universalistes. Et pour le coup, ce sont des.
Alors, sauf qu'en fait. Tu peux les lire autrement, c'est-à-dire qu'ils vont dire nous représentons le tout de l'espèce humaine.
Ah, pas du tout.
Ah, ils peuvent le dire comme ça.
Pas du tout.
Ah, si, parce que comme ils ont une conception ultra racialisée,
ah bah d'accord, ça veut dire que
les autres ne sont pas des êtres humains.
Ils ne sont pas, oui, voilà.
Mais c'est en même temps, c'est la conséquence logique.
Mais
c'est la conséquence logique de la clôture de la définition. C'est-à-dire, si tu clôt ta définition de l'être humain en disant nous, les nazis, nous sommes les seuls êtres humains.
Sauf que si tu.
Ah, mais ils ont pu revendiquer une forme d'universalisme, de ce point de vue-là.
Ils ont pas. À 9 fois sur 10, ils te vomissent l'universalisme.
Oui, parce que ça va être l'universalisme des lumières.
Comme ça dont on parle.
Cette espèce de cliquet qui est assez fou, fait que malgré tout, ils peuvent dire nous sommes sur un mode ironique, nous sommes les seuls représentants.
Oui, sur un mode ironique. Oui, non, mais le mode ironique, il est crucial ici, si tu veux. Le fascisme n'est pas universaliste.
Parce que, par exemple, dans la représentation du monde un peu toute délirante, les juifs ne sont pas une race, ils appartiennent pas, tu vois, c'est. Et donc, tu les exclus de la revendication universelle
Encore une fois, les 90% des textes, des manifestes, des justifications, des argumentaires nazis sont anti-universalistes, ils sont anti-lumière, ils sont anti-universalistes, anti-égalitaristes, etc., etc. Non, mais c'est vrai que le monde nazi, il est titre. Enfin, je suis sensible à une certaine heure, mais c'est pas. Bon, donc en fait, si tu veux, donc t'as cette question-là, mais effectivement, t'as raison de le dire. Effectivement, est-ce que quand l'universalisme est une revendication et un outil qui est revendiqué, par exemple à Haïti au moment de la Révolution française, est-ce que les analyses de Thomas Ibanez fonctionnent toujours? Est-ce qu'il s'agit bien d'un coup d'État pour prendre le pouvoir sur ton interlocuteur ou sur la personne que t'as en face, tu vois, pour écraser le débat ou pas? Là, c'est clairement plus contestable. Voilà. Et en même temps, on voit bien ce qu'il veut dire Thomas Ibanez dans cette affaire-là. T'as la preuve par Macron qui t'arrive sur la gueule directement. Hein. Donc on a ces deux pôles-là. Ce pôle anthropologique là, le pôle anti-universaliste très cohérent et pas du tout caricatural, hein, défendu par Ibanez, mais avec cette limite-là qu'on vient d'évoquer. Et puis bon, on va peut-être faire une deuxième pause. Faudra en parler un petit peu. L'autre point fort aussi de la revue, c'est la question féministe, ou en tout cas la question de l'universalisme dans le féminisme et dans l'histoire du féminisme, notamment dans l'entretien avec Françoise Pic là, qui est particulièrement intéressant, j'ai trouvé.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et brève partie. Nous vous présentons un numéro de réfraction qui s'intitule « Au risque de l'universel ». Et donc, voilà. Et là, tu voulais nous parler de l'universalisme, enfin, des enjeux de l'universalisme, plutôt dans le féminisme. Dans le féminisme, Alors, ouais, dans le féminisme, comment dire, MLF.
Ouais, féminisme français. Hein.
Féminisme français.
Là, c'est très clair là-dessus. Non, mais ce qu'on disait là, un petit peu juste pendant la pause musicale, c'est vrai que il y aurait de quoi faire plusieurs émissions en fait sur ce numéro, hein, tellement il est riche. Et puis tellement il multiplie les approches là, parce que bon là, avant d'y venir, mais du coup on n'aura pas le temps de parler de l'article de Daniel Colson là qui est intéressant, qui est toujours c'est toujours intéressant ce qu'il fait Colson là. En fait il a une espèce de lecture de Proudhon à partir de philosophes qui sont rarement associés comme Leibniz par exemple. Donc c'est l'histoire Leibniz ou Nietzsche, c'est très spéculatif hein, c'est de l'anarchisme spéculatif, mais c'est intéressant, c'est brillant comme manière de faire, c'est toujours stimulant. On parlera pas non plus là donc de la comparaison entre Landauer et Herder, alors que c'est intéressant aussi. Donc il y a vraiment plein de choses en tout cas. Donc un des temps forts, je dirais, de ce numéro là de Réfraction du 43, j'ai trouvé moi en tout cas, c'est l'entretien avec Françoise Pic par Monique Rouillet-Boireau qui signe le premier papier elle de ce côté-là et qui en fait reprend un peu l'histoire des débats autour de cette question universaliste dans le féminisme français, en montrant comment au départ, bah si tu veux, le féminisme à la Simone de Beauvoir notamment, et c'est inscrit justement sous un horizon universaliste. Il s'agissait de, on ne naissait pas femme, on le devenait, c'est-à-dire que il y avait le fond commun, c'est celui d'être humain, si tu veux. Et après effectivement les constructions de genre sont secondes, hein, donc effectivement elles sont secondes, et le socle sur lequel tu t'appuies pour revendiquer une égalité des droits et une égalité de traitement entre tous les êtres humains, c'est effectivement la nature humaine comme universelle, hein. Il y a cette base là, et ce qui fait qu'effectivement c'est quelque chose qui voilà une des lignes, si tu veux, stratégiques du coup du féminisme français depuis les années 60 au moins, c'est ça effectivement, comment faire entrer les femmes dans l'universel, si on peut dire les choses comme ça. Et évidemment c'est cette ligne là est percutée depuis déjà pas mal d'années par une autre tradition féministe, alors qui est plus anglo-saxonne si on dit les choses très vite, hein, et qui elle revendique plutôt une espèce de séparatisme, c'est le terme de Macron, mais plutôt une espèce de particularisme, d'autonomisme, je dirais, d'autonomisme du féminin, pour aller faire très très vite, notamment sur des questions d'organisation, sur des questions de revendication, et sur ce qui vient à cet effet de tourniquet qu'on évoquait au départ, que des féministes du coup qui s'inscrivent sous une espèce d'universalisme humaniste, etc., vont être aujourd'hui accusées parfois à raison, sans doute aussi assez souvent à tort, de laisser de côté finalement des oppressions plus spécifiques qui vont être celles par exemple des femmes racisées, oui. ou des femmes
on avait parlé pour les Black Panthers latinos
par exemple,
de New York, où
exemple,
justement tu avais des féministes
bien sûr
féministes souvent blanches qui allaient revendiquer l'accès au travail, ouais. Alors que pour des femmes latinos le problème se posait pas parce qu'elles bossaient déjà
et donc tu avais
tout un gros problème de ce côté-là
avec la caricature qui va être aujourd'hui tu vois celle voilà de grande bourgeoise à la Elisabeth Badinter qui assume justement cette espèce d'universalisme
On va devoir rendre l'antenne là parce que de toute façon là Jean-Mathias ne veut pas avoir le temps de faire une phrase au 3 km parce que il y a entre chien et loup qui arrive.
En tout cas, l'entretien est je trouve très 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 juste, sans se cacher derrière son petit doigt, parce qu'elle effectivement Françoise Pic est une des fondatrices, hein, c'est une des militantes historiques du MLF, donc elle est plutôt effectivement dans cette tendance du féminisme français. Et en même temps, elle pose des questions qui sont pertinentes. C'est effectivement, est-ce que les catégories, si tu veux, qui ont été élaborées et importées du débat anglo-saxon, ont permis réellement, tu vois, d'avoir une société plus égalitaire, plus favorable, tu vois. Du point de vue du féminisme ou des enjeux féministes de l'autre côté de l'Atlantique ou de la Manche, c'est pas du tout évident en réalité, si tu veux. Donc il y a une espèce de manière de reprendre le débat un peu sur le temps long là, qui est assez stimulante, je trouve, hein. Donc ça fait partie aussi des points forts et des intérêts là de ce numéro, donc que je recommande encore une fois, hein. C'est l'avant du dernier numéro en fait de Réfraction, hein. Le prochain va sortir là incessamment, s'il n'est pas déjà sorti. Donc c'est celui de l'automne dernier, voilà, au risque de l'universel. Donc il est toujours disponible, hein, notamment à Publico où vous pouvez le commander, mais je le recommande vivement parce qu'il est plein de bonnes choses très intéressantes et très stimulantes. Voilà.
Donc bon été. Nous on se reverra, on reviendra en septembre si le Covid-21 et Godzilla n'ont pas tout emporté avec eux. Et d'ici là, prenez soin de vous.
Thank you for making it to the conclusion of my essay. I'll be learning some.
Mom, I
hope you teach some. The only way we progress as a society is to progress knowledgeably. And I've had that knowledge through my daily life, I believe. I didn't know until I was told. So I gotta let you know.
I'm stuck getting the sections. No girl, no wind injections. See that gets me stressing. That you ain't get these lessons. Scriptures won't really spell it. Pictures won't worth compelling. Did I do something wrong? Or all these niggas just rebelling. Ignorance is easy, so we chilling. Said that culture trap is still depressing. I ballin', then in hell and hell and hell. Then he calling his independent black female out. For not being all round.
Wow. Thought you were so proud, nigga. Where your queens now, I'm call it, bring it. To the bank roll, I'm falling. Keep it in the sex show, keep falling. Peep it in the change rolls, keep falling. Peep it in the change rolls, I'm call it. Bring it to the bank roll, I'm falling. Keep it in the sex show, keep falling. Peep it in the change rolls, keep falling. Peep it in the change rolls, I'm call it. Bring it to the bank roll, I'm falling. Keep it in the sex show, keep falling. Peep it in the change rolls, keep falling. Peep it in the change rolls. Bank roll in the sex show. And it change rolls, and it change rolls. I came here to let you know, not here for no status quo. I brought the tools to help grow, the condition you'll undergo. Now it's not an easy time, no time to fall in your prime. Whose bliss is in your past, the future is sure to shine. I came here to let you know, not here for no status quo. I brought the tools to help grow, the condition you'll undergo. Now it's not an easy time, no time to fall in your prime. Use bliss is in your past, the future is sure to shine.
Brave the revolution, brave the revolution. The cavalry coming heavy, the cavalry coming fast. Brave the revolution, brave the revolution. The cavalry coming heavy, the cavalry coming fast.
Leave me at intercessions. These people need some lessons. All of their damn impressions. A world that then cause regressions. This the important message. We go through all the stressing, but this issue is different. Cause systems ain't just oppressors.
Bring it to the bank roll, I'm falling. Keep it in the sex show, keep falling. Peep it in the change rolls, keep falling. Peep it in the change rolls, got quality. Bring it to the bank roll, I'm falling. Keep it in the sex show, keep falling. Peep it in the change rolls, keep falling. In the change rolls, got
pallet. Bring it to the bank roll, I'm ballin'. Keep it in the sex shop, keep ballin'. Peep it in the change rolls, keep ballin'. Peep it in the change rolls. Bank roll in the sex shop. In the change rolls. In the change rolls.
Is a blessing to us but a curse to the world. Kimberlé Crenshaw said if we aren't intersectional, some of us, the most vulnerable, will fall through the cracks. Don't let them fall.